dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans ce panier fin octobre. J'espère que vous allez bien. On a eu un temps un peu grisou, pluvieux, par brassée de douce. On est à quelques jours d'Halloween, donc écoutez, on va se faire une petite émission tranquille. On va parler de ciné et d'un film et d'expo aussi, ce qui une fois n'est pas de coutume. De temps en temps, je peux vous parler d'expo. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai toujours ma voix de canard. Mais bon, ça passe pas, hein, voilà. Le reste a été c'est remis, mais la voix, c'est pas encore ça. Donc bon, écoutez, vous avez une nouvelle Lisa vocale. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Enfin, pour mes oreilles, c'est très bizarre. Alors écoutez, on va commencer en musique, et puis on va parler d'une série, c'est une cinquième saison, qui se tient toujours aussi bien, que j'adore toujours autant. Et vous allez voir, ça encore envoie du lourd pour la cinquième saison. On va écouter The Rolling Stones avec Wild Horses. Oui, il y a un mot dans le titre de la chanson qui rappelle celle de la série. Si, si quand même, c'est évident là maintenant.
Thank you.
Alors après Wild Horses, on va parler de Slow Horses. Oui, la série qui est sur Apple TV. Alors, je rappelle, c'est une sous-section du MI5 anglais. En fait, en gros, ils ont balancé tous les bras cassés, ceux qui avaient des gros problèmes psychologiques, qui avaient foiré des missions, etc., dans le même endroit. Et leur chef, qui s'appelle Jackson Lamb, qui est joué par le formidable Gary Oldman, est un mec désabusé, crade. Ah, mais si, crade. Pas toujours très catholique sur les méthodes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui essaie de maintenir cette unité à flot sans pour autant les valoriser. C'est-à-dire qu'il les traite plus souvent d'abrutis que de bons agents. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, ces gens, aussi bien bras cassés qu'ils le sont, ils arrivent à résoudre des enquêtes. Parce qu'en fait, ils ont été formés au MI5, donc c'était des agents corrects avant d'atterrir dans cet atelier à bras cassés. Et donc, ça fait 5 saisons, enfin 4 saisons qu'on les connaissait, et toutes les saisons sont très très bonnes. Donc là, cette saison-là, elle s'attache aux geeks des Slow Horses, donc de Roddy Ho, qui est un mec égocentré complètement. Il est un peu débilus aussi, des fois. Et cette saison-là, il dit à tout le monde qu'il est tombé fou amoureux d'une fille qui est une bombe anatomique, et tous ses collègues se demandent vraiment ce qu'elle peut lui trouver, parce que c'est pas possible. Et quand il va échapper de peu à être renversé dans la rue par une fourgonnette, une de ses collègues est persuadé qu'on a voulu le tuer, lui. Donc forcément, il se dit, ben non, pas du tout, personne ne me connaît, etc. Et donc l'équipe de Jackson Lamb va quand même se lancer à la limite de tout, c'est-à-dire l'égalité, débilité, tout ce que vous voulez, dans le pourquoi du comment. Roddy Ho se trouve au centre d'un espèce de complot. Et alors, au fil des épisodes, l'histoire devient de plus en plus étrange et étonnante, puisque, en fait, il y a des ramifications de partout, et on se rend compte que quelqu'un veut déstabiliser le gouvernement britannique, et carrément le pays en entier, et il y a des étapes dans la manipulation de l'opinion, dans comment renverser un pays en faisant quelques actions. Donc, évidemment, ça ne va pas se passer aussi facilement que prévu avec les Slow Horses. Et chaque personnage, c'est ce que j'aime dans cette série, chaque personnage a son développement, a ses angoisses, a ses états d'âme, a ses petites victoires, a ses moments de doute. Là, on voit bien que River, il se demande un peu ce qu'il fout là aussi. Il y en a une qui est vraiment, vraiment à la limite de la psychiatrie. Mais tout le monde avance plus ou moins correctement, sachant qu'en plus, évidemment, il va avoir des reproches, il y a les névroses qui se mettent par-dessus, ils font des résolutions de petites mini-enquêtes qui tiennent absolument du miracle, mais ça marche, et le MI5 par-dessus, qui se retrouve dans une position, familièrement le cul entre deux chaises, et Bien sûr, ce bougre de Jackson Lamb qui n'aide pas du tout à la stabilisation de l'ensemble, hein, s'il peut mettre des bâtons dans les roues de ses supérieurs et ne pas non plus trop encourager ses agents à être les meilleurs. Alors après, il y a aussi un côté paternaliste de cet homme, puisqu'à un moment au tout début de la saison, il raconte une histoire qui s'est passée pour un agent infiltré à Berlin. Et en fait, on comprend que l'histoire qu'il raconte, c'est la sienne, qui est d'ailleurs absolument horrible. Mais comme il dénie tout de suite en disant « mais ça va pas, jamais de la vie, j'aurais fait ce genre de choses », on comprend en filigrane qu'en fait, ça lui est arrivé et que c'est à cet moment de... Enfin, quand même, au bout de 5 saisons qu'on comprend pourquoi il est dans cet état de délabrement avancé et pourquoi il se fout absolument de tout, y compris de mourir. Mais il a quand même un côté protecteur envers ses agents, ce qui est quand même quelquefois assez touchant parce qu'il a beau les engueuler comme du poisson pourri, il y tient. Il leur sauve la mise plusieurs fois. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est dense à chaque fois, qui se mêle bien sûr dans le niveau de l'espionnage et des règles que Londres doit toujours appliquer pour tenir la tête haute. Et puis, je vous dis, c'est plein de bons mots, c'est quelquefois un peu burlesque, mais c'est toujours très britannique. Avec cet humour et ce recul sur eux-mêmes et quelquefois aussi ils pointent là les travers puisque à un moment donné ils pointent carrément l'extrême droite et les partis nationalistes. Donc il y a toujours une pique quelque part pour faire avancer le débat, pour faire avancer ce qu'il y a. Franchement, Slow Horses, c'est quand même la 5e saison et c'est une saison qui se tient encore. Et des séries qui se tiennent sur 5 saisons, c'est quand même assez rare pour le signaler. Donc si vous aimez les séries d'espionnage, si vous adorez Gary Oldman, si vous trouvez que Christine Scott Thomas est aussi froide que la glace, mais assez retorse dans certains rôles, elle est parfaite dans celui-là, allez-y. En plus, il y a des images de Londres, il y a des images de la campagne anglaise. Que demande le peuple? Encore des saisons. Alors il y a une 6e saison qui est tournée, qui a été annoncé pour être programmé sur les écrans prochainement, et il y a une 7e qui a été signée. Donc, on va aller au moins 7, et franchement, mais j'ai hâte d'avoir la 6e saison et la 7e, et s'ils pouvaient en faire 20, je serais heureuse. Voilà. Donc, Slow Horses, saison 5, c'est sur Apple TV, mais c'est accessible sur MyCanal, si vous avez MyCanal. On fait une petite pause musicale et on parle d'une série française excellente. Vraiment. Petite pause musicale avec Soul Asylum, Runaway Train. Y a un rapport très lointain. Oui, le lutin me dit très très éloigné. Bah si, il y a un mot qui rase. Un non. Bon, pas d'accord. Call you up in the middle of the night. Like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one help me now, I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway. Everything seems
little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Alors après le runaway train, on va parler de gare. Oui, train, gare, je sais. Alors Lutin m'a dit en off, ouais, c'est tiré par les cheveux. Oui, enfin par un wagon en l'occurrence. Alors on va parler des disparus de la gare, de cette série française donc, qui est actuellement sur Disney+. Alors c'est tiré de la vraie histoire qui s'est passée entre 1995 et 2001 à Perpignan, de ces jeunes femmes qui ont été sauvagement assassinées, d'une adolescente qui avait disparu. Et toutes ces jeunes femmes, en fait, ont disparu dans autour de la gare de Perpignan. On va suivre, en fait, Flore Robin, qui est une jeune enquêtrice, qui fait ses premiers pas dans la police le jour même où le premier corps est retrouvé. Elle va faire équipe avec le capitaine Vidal et le mentor de ce Vidal, qui était au placard depuis très longtemps, mais qui rappelait, en fait, pour cette affaire assez hors norme, pour avoir un avis extérieur. Et parallèlement, on va suivre la mère de cette jeune fille qui est portée disparue, qui explore absolument toutes les pistes et qui, ben, en fait, traque aussi le tueur en série, puisque en fait, c'est le même mode opératoire. Alors, dès les premières minutes, vraiment, il faut le savoir, les disparus de la gare captent l'attention par une tension sourde et vraiment oppressante. Ils le disent en début de la série, avant même le premier plan, que tout ce qui est détail de l'enquête, interrogatoire, etc., est calé vraiment sur l'enquête, vraiment, puisque c'est vraiment une histoire qui est une enquête policière qui a existé. Mais tout ce qui est dialogue personnel, petit aparté, etc., est fait pour la série. On est bien d'accord sur la question. Alors, on est à Perpignan, à la charnière des années 90-2000, d'ailleurs qui sont rythmés par selon quand les meurtres ont lieu ou les rebondissements ont lieu, des nouvelles découvertes apparaissent. C'est rythmé par des chansons d'époque, évidemment. Et vraiment, la ville est un personnage à part entière. Et en fait, le scénario mêle très habilement le thriller policier avec l'intime des enquêteurs. La répercussion que ça a sur leur vie personnelle, sur leurs états d'âme aussi, sur ce côté, ça explore vraiment beaucoup le traumatisme, bien sûr, des familles. On peut imaginer, vu la sauvagerie des meurtres. Et puis, bien sûr, la lassitude des enquêteurs qui n'arrivent pas, au début des années 90, à trouver quoi que ce soit qui puisse les aiguiller. Et la peur viscérale qui se développe dans le périmètre de la gare et puis carrément dans le périmètre de Perpignan. Le scénario n'oublie jamais, à aucun moment, de donner des fausses pistes. Sur les 6 épisodes, ça prend le temps de nous faire comprendre la complexité de l'enquête de l'époque, y compris, d'ailleurs, l'évolution des techniques policières sur une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, on part du début, même si ça commence à 95, mais on balbutie certaines choses et il s'appuie toujours sur ce qui s'est passé dans les années 80. Et quand on arrive au basculement des années 2000, en quelques années, il y a eu énormément d'avancées, notamment sur l'ADN, sur les techniques de prélèvement, sur les scellés. D'ailleurs, il y a un moment donné où la jeune agricultrice en fait avait mis ça dans un papier Kraft et pas dans un sachet plastique comme ça se faisait, etc. Pour une raison X ou Y, elle l'explique, mais elle l'a lu quelque part, mais elle pense que c'est ça, personne pense que c'est une bonne idée. Et en fait, il se trouve que des années plus tard, quand on doit faire un prélèvement d'ADN ou d'empreinte sur cet objet, en fait, le fait qu'il ait été dans cet environnement-là de conservation, ça marche. Voilà. Donc, on voit vraiment l'évolution aussi des techniques policières qui permettent de résoudre des enquêtes désormais, sachant qu'on le voit au début, si, sauf étaient fichés à la police que des gens qui avaient commis des infractions. On ne relevait pas systématiquement toutes les ADN sur les scènes de crime, etc. Et donc forcément, il n'y avait pas de classement, n'était noté dans la base de données que les gens, les criminels. Voilà. Maintenant, plus ou moins, si vous avez un relevé d'enquête, je crois que même quand vous donnez vos empreintes pour les cartes d'identité, je crois qu'ils ont le droit de croiser dans certaines enquêtes, etc. Donc ça évolue évidemment et ça donne plus de possibilités de résoudre. Il y a beaucoup de silence en cette série. Aussi des regards, notamment au niveau de la maman qui cherche sa fille, Tatiana. C'est vraiment elle qui déclenche absolument tout. Le casting est vraiment excellent. Mélanie Douté, donc, qui joue cette maman déterminée, avec une volonté de faire, mais qui est brisée malgré ses enfants qui restent et son mari. Camille Raza, qui joue la jeune enquêteur. Alors, elle est enquêtrice, elle est très fraîche au début. Et elle est déterminée à retrouver le tueur, mais petit à petit, on la voit s'assombrir, même si elle reste lumineuse, mais elle s'assombrit parce que c'est lourd à porter. Le capitaine Vidal est joué par Hugo Baker, qui est vraiment à fleur de peau, voilà, et qui est un peu loin des rôles qu'on lui donne de temps en temps, et c'est vraiment très très bien fait. Et le vieux flic désabusé est joué par Patrick Timpsit, qui joue un mec un peu taiseux, un peu grognon, vous savez, un espèce d'ours mal léché, mais qui est très très bon, mais qui est dédié à cette mission-là, donc vraiment, voilà. Et évidemment, c'est le contexte de l'époque, donc on voit les tensions humaines dans le commissariat, on voit l'évolution du machisme au début et de la prise de conscience de certains, que bon, on n'a pas le droit de siffler une fille comme un bout de viande, par exemple. Et tout dans cette série est tendu. Alors, quelquefois, c'est un lent, mais c'est un lent tendu. C'est-à-dire, c'est vraiment chaque épisode qui prend le temps de montrer, démontrer, d'expliquer, de déployer, en fait, les enjeux de cette histoire, de la vie crue de ces jeunes femmes, de leur famille. Et bien sûr, toujours, il y a toujours ce poids de l'enquête sur les enquêteurs. Vraiment, Les Disparus de la Gare, c'est à la fois une adaptation très fidèle de l'enquête, mais aussi une fiction côté personnages et dialogue, et ça se mêle vraiment formidablement bien. Le récit habille vraiment tout. Les personnages sont fouillés, très bien interprétés. Il y a eu de la délicatesse dans les sentiments montrés. Et c'est une série qui est vraiment un true crime à la française, on va dire, qui vraiment prend au trip. Et alors le dernier épisode, qui est un espèce de huis clos oppressant et en apnée, vous sortez pas de cet épisode sans avoir des frissons, vraiment, mais des frissons de terreur à un moment donné. Donc voilà, donc Les Disparus de la Gare, c'est sur donc Disney+. Écoutez, c'est une très bonne série française. C'est une série qui aurait pu être faite par Arte. Vous voyez le genre de série qualitative de Arte, c'est à peu près ça. Voilà. Allez, petite pause musicale avec The Corrs, Breathless. Et on parle d'un film qui il faut avoir le moral pour le voir, hein. Moi aussi quand même, il faut avoir le moral. Go on, leave me breathless.
Still, I'm waiting for you on.
après The Corrs, qui sont irlandais, on va parler d'un film qui s'appelle Steve. C'est un film de Tim Milland, et on va rester 24 heures dans la vie de ce Steve-là, qui est un directeur d'une école qui lutte en fait pour garder ses élèves dans le droit chemin. Alors, il faut le dire, moi aussi quand même, on est allé voir le film, enfin, on a vu le film, parce qu'avec Cillian Murphy. Alors, c'est sur Netflix. Voilà. Oui, je sais, je suis une mini-dinette avec Cillian Murphy. Que voulez-vous ? Ça fait 20 ans que je l'admire. Hein. Je fais ce que je peux. Voilà. Même si le lutin, des fois, en a un peu marre. Il faut quand même le reconnaître. Voyez, il fait oui de la tête, on dirait un chien à l'arrière d'une voiture. Bref. Alors, dès le début de ce film, on sent que ça va nous remuer. Vraiment. Et le lutin est d'accord avec moi pour une. Enfin, c'est rare qu'on soit pas d'accord sur les films quand même. Des fois les séries, mais les films là. Mais là, il m'a dit, waouh, quel film. Bref, on est en présence de Steve en fait, qui est un directeur qui est vraiment fatigué. Il est au bout du rouleau, ce pauvre gars, qui gère un centre de jeunes adolescents dérives qui sont violents aussi bien contre les autres que contre eux-mêmes. Et dès le début, on sait que cet homme est à bout, mais à bout de tout. Voilà, il est seul, il parle seul à un dictaphone, il se motive comme il peut avec le dictaphone. On a l'impression qu'il abuse de substances illicites, style médicaments ou alcool, ce qui va se vérifier après. Et que malgré ça, malgré tout ce qui pèse sur ses épaules, en fait, il avance parce qu'il veut aider absolument ces gamins cabossés par la vie. Et on comprend assez vite que c'est le seul rempart que ces gosses ont contre la société qui en fait les marginalise. Et que lui, Steve, il prend tout trop à cœur. Au centre, on va découvrir assez rapidement Sky, qui est un ado en perdition, alors qu'il y a un cœur tendre au milieu de cet océan de violence, mais qui a énormément de violence en lui pour beaucoup de choses. C'est très compliqué pour lui. Et donc, on va suivre l'équipe pédagogique et les gosses sur 24 heures. Au milieu de ça, il y a une équipe de tournage télé qui vient en fait pour un reportage pour aider le centre, mais en vérité, on comprend très vite que c'est à charge, qui va pas du tout aider, puisque ça va dégrader la situation. Et on va mesurer l'ampleur du malaise et des malaises et de l'abandon des pouvoirs publics et privés, puisque le centre a des fonds privés qui vont lui être retirés, en gros, parce que le mec, il veut faire plus de fric et qu'il en a, il va vendre la propriété plutôt que d'aider ces gens-là. Et l'équipe pédagogique et leurs protégés se retrouvent démunis. Voilà. Et tout est brisé. Alors, les cœurs, la baraque, hein. Alors, l'extérieur, c'est un château. À l'intérieur, c'est un peu un taudis, quelquefois. Les âmes, les espoirs. Et ce film, ça respire la colère, la perte de confiance, les moyens dérisoires pour essayer de réparer des gens, des esprits, au prix, parfois, de se perdre, comme l'équipe pédagogique, dans la lutte, quelquefois. Et lui, Steve, on voit qu'il décide de s'accrocher. Il sait qu'il va sombrer corps et âme dans cette histoire-là, mais il s'accroche. Et les gros plans du début du film sur Cillian Murphy, alors on sait qu'il a il a des mirettes très expressives et qu'il peut faire passer beaucoup de choses sans parler, sans dire quoi que ce soit. Mais ce côté à fleur de peau, limite à pleurer face caméra à un moment donné, puisque l'intervieweur lui demande « Vous voulez qu'on arrête ?» et lui dit « Non, non, ça va aller, mais on sent que oh là là, ça déborde. » C'est un film qui est un peu irrespirable, mais qui, parce qu'il y a des propos qui sont durs, il y a une intensité violente dans le film, mais qui est contrebalancée tout le temps par quelque chose de plus lumineux. Il y a une scène qui nous a marqué, vraiment, c'est que d'un côté, il y a tout qui leur arrive dessus, c'est-à-dire on leur dit que le centre va fermer, qu'il n'y a plus de moyens, que c'est la merde en gros. Et de l'autre côté, vous avez les gosses qui jouent sous la pluie au foot, avec une image très poétique. Et donc, c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire que rien n'est fait pour tricher dans ce film, c'est tout brut, c'est terne, mais c'est à la fois terne, terrible et sombre, et des fois déprimant, mais c'est vivant et absolument lumineux. C'est assez étonnant. Et quelquefois, il y a des absences, c'est-à-dire que vous avez le zoom sur un regard, notamment celui de Steve, enfin de Cillian Murphy, mais de Steve, ou d'un protégé, d'un de ces jeunes ados, qui regarde dans le vide, ou qui a un regard où on sent que ça va, la cocotte minute va exploser. ou ils se sentent perdus et ils ne savent pas quoi faire. Vraiment, c'est absolument magnifique. Et on est toujours avec ce directeur qui est sûr de ses convictions, malgré que l'homme soit complètement paumé au bord du précipice et qu'en gros, il aspire à tomber dans le précipice. Mais vraiment, ce film, il montre que malgré tout le désespoir, malgré le chemin absolument pourri, les cœurs en vrac, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose, mais en l'occurrence là, quelqu'un, un être humain, qui par un sourire, un mot, un regard, peut arriver à sauver le monde. En tous les cas, quelqu'un. Voilà, ce Steve-là, malgré tout ce qui va pas, il a toujours quelque chose pour ces gosses-là. Il essaye de les maintenir constamment à flot. Et vraiment, c'est un film assez terrible, mais qui prône l'espoir en l'être humain quand même, un minimum. Et franchement, c'est un très beau film. C'est un film dur. Enfin, il faut avoir le moral pour le regarder, vraiment. Ne regardez pas ça un soir où vous êtes déprimé, hein, parce que vous allez nous faire un Steve, hein, voilà, donc vraiment. Donc Steve de Tim Milland, c'est sur Netflix, donc voilà, si vous êtes fan de Cillian Murphy, comment vous dire, voilà. Oui, bon, ça va, c'est parce qu'il m'a dit, tu n'as pas arrêté de soupirer, bah oui, c'est difficile de ne pas soupirer devant Cillian Murphy quand même, il est marrant lui. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Bandolero Paris Latino, bah oui, parce qu'on va parler d'Espo, alors à Paris, mais aussi à Bordeaux, alors... Prenez note.
Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Vert sur vert de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
Parti direct to Mexico. Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, eh.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
Yes, yes, show. You don't stop. Oh, come on, come on. is groove.
Don't stop.
So just kick off your shoes.
Hit the top.
And begin to groove.
Party.
Don't waste no time.
Get down.
And get drunk on wine.
Alors après Paris Latino, on va parler d'Expo. Alors à Paris, on va commencer par Paris. Il y a deux expos vraiment magnifiques si vous aimez la peinture. La première, c'est John Singer Sargent, qui est donc au musée d'Orsay. L'expo finit le 11 janvier. Véritablement, c'est une petite merveille. Voilà, alors je ne sais pas si... c'est un artiste américain en fait, qui est vraiment... un spécialiste des portraits. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent certains portraits, notamment de Sargent, notamment les filles d'Edward Darley, Boat, qui est vraiment un de ses plus gros succès. Il a fait aussi des cocottes, ce qu'on appelait à Paris, de ces jeunes femmes. Vraiment, il a un art du portrait, une façon de peindre où les robes, enfin, c'est incroyable, parce que de loin, vous avez l'impression que c'est une photo, que c'est véritablement une photo, les plis, les veloutés des tissus, etc. Et quand vous regardez de près, c'est pas du tout ça, mais c'est incroyable. Et il y en a une qui est très, très connue, bien sûr, qui est celle du docteur Pozzi chez lui, donc ce portrait de ce médecin qui était très ami, avec Sarah Bernard, qui est dans cette robe de chambre rouge, mais rouge sang. Très beau garçon, on peut dire. Oui, oh, ça va. Oui, alors, il est jaloux, le lutin, parce qu'à chaque fois, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il est beau, cet homme. Il me dit, ça, enfin, c'est ce qu'on peut déjà. Voilà, et vraiment, c'est une expo qui est... c'est vraiment une très jolie expo parce que ça montre toute l'ampleur de tous les portraits. Il y a le portrait de Madame X, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sources, de collections. Il y a une très très importante collection au Metropolitan Museum of Art à New York. Donc là, qui nous est prêtée au musée d'Orsay. Donc honnêtement... si vous allez à Paris, le TGV n'est pas très loin, c'est pas loin Paris, on peut faire un aller-retour dans la journée pour aller voir ça, aller voir Orsay et aller voir John Singer Sargent. Vraiment, c'est l'expo s'appelle Éblouir Paris, je crois. Donc franchement, n'hésitez pas. Et deuxième expo à Paris, tant qu'à faire, autant faire deux expos. c'est Georges de la Tour. Donc, l'expo s'appelle « Entre ombre et lumière ». Ça finit le 25 janvier. Elles ont toutes les deux commencé début septembre, d'ailleurs. Tout le monde connaît Georges de la Tour, je suppose. Il y en a pas mal au Louvre. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on va devant les tableaux de Georges de la Tour, il n'y a pas grand monde. C'est très étonnant. Alors que, franchement, il est connu pour ses scènes très intimistes, ses clairs-obscurs. Il a été très influencé par Caravage, évidemment. Et il a une interprétation assez personnelle et assez audacieuse, quand même, aussi, quand même le dire, du clair-obscur. Il est assez fasciné par les jeux de lumière artificielle. Donc, il y a beaucoup de scènes de nuit, nocturne, on va dire. Oui, c'est nocturne, les scènes de nuit. Bravo, Lisa. Nocturne, qui sont plus ou moins à la bougie, à la chandelle, si vous voulez. Et vraiment, c'est à la fois poétique... Et c'est très 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 beau. Je sais plus combien il y a de peintures, mais il y a plus de 30 peintures exposées dans l'expo. Donc surtout, n'hésitez absolument pas d'aller le voir, parce que bon, il y en a qui sont très très connus. Hein. Il y a le célèbre le nouveau-né là de ces deux femmes qui entourent un bébé en mailloté, etc. Et qui est éclairé d'ailleurs à la bougie. Mais il y en a des absolument magnifiques que l'on voit un peu de partout, mais qui sont vraiment... Il y a la Madeleine pénitente qui est vraiment très très belle aussi. Vraiment. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Paris, n'hésitez absolument pas à aller voir, évidemment, Georges de la Tour. Et si vous n'avez pas envie d'aller à Paris, mais que vous vous dites « Oh, j'aimerais bien me faire une expo et tranquille », à Bordeaux, vous avez une superbe expo qui s'appelle « Sage comme une image, l'enfance dans l'œil des artistes entre 1790 et 1850 ». C'est jusqu'au 3 novembre, donc ça finit dans une semaine, donc dépêchez-vous. C'est à la galerie du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et vraiment, c'est un thème qui présente à peu près une cinquantaine d'œuvres de collection, donc entre le 17e et donc... on va dire 17, fin 17e, 18e, et donc là, en l'occurrence, fin 19e, qui sont vraiment des portraits magnifiques. Alors vous avez des portraits, par exemple, de Ferdinand Philippe d'Orléans, qui est le duc de Chartres. Vous avez le portrait de Louise Vernet, par exemple. Vous avez aussi un portrait de Victor Hugo avec son fils, François-Victor. Vous avez... quelques daguerréotypes aussi, donc c'est quand même très intéressant de le voir. Et puis, vous avez des portraits de famille, etc. Donc, franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Bordeaux, d'aller voir ce qu'était un enfant au début du 19e siècle, on va dire, entre les peintures et les premiers daguerréotypes, ils exposent le portrait familial et on montre la démocratisation de ces portraits où on pose. Alors on peut poser vivant entre guillemets, et quelquefois c'est aussi l'occasion de faire des daguerréotypes à titre posthume, par exemple qui vont immortaliser un enfant sur son lit de mort. Voilà. Et on sait qu'il y avait une forte mortalité infantile à l'époque. Et alors c'est des photos très curieuses, hein, mais c'était l'occasion pour les parents d'avoir un souvenir en fait de leur enfant. Parce que convoquer un peintre, peindre quelqu'un, c'est pas facile, alors qu'un daguerréotype, en fait une photo si vous voulez, même si c'est une technique, alors là, le daguerréotype c'est en fait une technique de photographie sans négatif, c'est sur une surface d'argent poli, un peu comme un miroir, et c'est exposé à la lumière. Voilà, donc c'est assez étonnant, et puis c'est aussi l'occasion, quelquefois aussi pour... montrer la vie d'une famille. Et quelquefois, on voit que les pères, on voit pas les mères, sachant que y a des mères qui... Enfin, à l'époque, il y avait des gens qui divorçaient, donc c'était confié au père, selon la condition de la mère, puisque je rappelle quand même que le divorce a été rendu possible sur la loi du 20 septembre 1792. Voilà. Donc, vraiment, c'est une très très jolie exposition sur sage comme une image, voilà, être sur un portrait, montrer, suggérer, exposer une famille, etc. Donc voilà, si vous êtes sur Bordeaux, n'hésitez pas, ça finit le 3 novembre, hein, donc allez-y, hein. Bon, ça va, on est large, il y a une semaine. Bon, puis Bordeaux, c'est pas très très loin non plus, donc on peut faire une excursion, ça permet d'aller faire les magasins et d'aller voir une expo. Donc c'est, je le rappelle, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est place du Colonel Rénal, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est là. Voilà. Donc, c'était l'émission culturelle du mois, séries, films et expos, que vous dites. Oui, de temps en temps, je verrai passer des trucs comme ça, ou des expos, des trucs assez sympas, même si c'est loin de notre joli petit territoire. On se dit qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de se faire un petit déplacement assez sympathique. Donc si vous avez des expos qui vous intéressent, y compris dans notre jolie Dordogne, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mot, et puis vous me dites, ah bah tiens, il y a une expo par là, il y a des expos un peu partout, dans des petits musées, dans des trucs, donc n'hésitez surtout pas. C'est toujours agréable de pointer et d'aller voir quelque chose qui est intéressant, voilà. Et puis en plus, il y a les podcasts de Liberté FM, donc vous pouvez mettre un podcast dans vos oreilles et aller voir le musée. Ha ! Bah quoi ? Oui, on peut aller au musée, voir une expo avec le podcast de Liberté FM. Si, n'hésitez pas, allez voir dans l'onglet podcast, il y a des podcasts, c'est bien. Allez écouter mes petits camarades qui disent des choses très intelligentes, contrairement à Lisa. Ça, c'est le lutin qui vient de le dire. C'est sympa le lutin, je vous le dis. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, vous êtes tranquille. On se donne rendez-vous dans quelques jours, en fait, puisque... Bien. Ah ben oui, puisque j'ai dit premier lundi du mois, dernier lundi du mois, donc forcément, là, vous allez en avoir deux pour le prix d'une. Bah écoutez, prochain panier, on parle de mes lectures d'octobre qui sont vraiment des bonnes lectures. Et notamment un vieux livre qui m'avait été recommandé par un vieil oncle il y a au moins 40 ans que je n'avais pas lu. J'en avais lu d'autres de cet auteur, mais pas lui. Et je pense que c'est un regret de ne pas l'avoir lu avant, mais est-ce que j'avais eu la maturité de le lire avant? Je ne suis pas sûre. Bon, bref. On parlera de livres, donc notez les livres. En plus, on n'est pas loin de Noël, ça sera donnera des idées au Papa Noël. Ah oui, il faut donner des idées au Papa Noël. Hein. Comment c'est la liste, hein? Bah, on est fin octobre. C'est dans quelques dodos, hein, donc, et puis Papa Noël, il n'y a pas que ça à faire. Voilà. Allez, d'ici là, bisous bisous, à la semaine prochaine. Si on est toujours vivant, hein, on va crever. Enfin, moi, en tous les cas. Et on se quitte en musique avec, bah, forcément, hein, on est en octobre. Francis Cabrel, octobre. Ah bah oui, non mais là, c'était tellement évident. Allez, nous, on s'occupe de vos petites oreilles et vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez et on part avec Francis sur les routes d'octobre. Voilà. Oui, oh bah ça va. Ouais. Mais oui, il y a encore quelques jours, c'est pour ça que je m'en vite. J'étais à ça, hein. Oh, j'aurais mis Guns N' Roses, November Rain. Bah oui, si on avait été en novembre. Tiens, c'est pas con. Faut retenir la chanson pour la prochaine fois. Oh non, ça améliore pas tous les deux. Hein. Ouais, c'est octobre. On a eu trop de pluie sur la figure, il me dit. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oh, c'est dur.
Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Appuyé sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Dehors comme les enfants du Nord, octobre restera peut-être.